Alors, un excellent sabbat à vous tous. Le titre de mon message aujourd'hui, la persévérance. La persévérance. Et ça, c'est un élément clé dans tout ce que nous entreprenons dans nos vies. Quand on réussit quelque chose, c'est automatiquement parce qu'on a persévéré, hein? Parce qu'on a été tenace malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et c'est la même chose au point de vue spirituel. On a besoin de persévérance pour développer le caractère de Dieu, puis croître. Allez dans Romains chapitre 5. On va commencer par ce passage-là qui met la table, si vous voulez. Romains chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Parce que c'est lui qui a payé l'amende de nos fautes, et quand on se repent, qu'on demande pardon, on revient en paix avec Dieu, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. On parle de persévérance, de fermeté. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et notre espérance, c'est justement la gloire de Dieu, c'est-à-dire de naître dans sa famille en tant qu'être spirituel, comme on a vu dans plusieurs messages dernièrement. Continuons verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Pas parce qu'on s'enorgueillit des afflictions, mais on les apprécie à leur juste mesure parce qu'elles ont un rôle à jouer dans notre développement. Les épreuves, les difficultés à rencontrer. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Quand on a une épreuve, une difficulté, et qu'on doit passer à travers, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la persévérance, parce qu'on tient le coup, on veut réussir à passer à travers. Qu'est-ce que ça fait? Ça développe la persévérance. Et verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et si on persévère dans toutes ces choses-là, on va aller jusqu'à une victoire totale au moment du retour de Christ. Et cette victoire, l'espérance, ça produit l'espérance. On a des petites victoires, ça nous encourage, comme un athlète qui s'entraîne et qui devient un peu meilleur, il est encouragé d'aller plus loin, de poursuivre son entraînement. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Et vous savez, l'affliction ou les épreuves qu'on a rencontrées ou les difficultés, on ne doit pas en être surpris. Dieu permet que ça arrive, parce que Dieu est un bon père. Et vous savez, si Dieu enlevait de notre chemin tout ce qui est difficulté, tout ce qui est épreuve, tout ce qui est chose à surmonter, on ne développerait pas son caractère, ni la persévérance, ni l'appréciation des choses. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parents? Nous autres, on a élevé des enfants, on a des petits-enfants maintenant à goûter comme présence, mais on n'enlevait pas tous les obstacles devant eux. Au contraire, parfois, on les laissait même passer à travers certains obstacles. Pourquoi? Pour leur bien, pas pour qu'ils aient de la misère. Bien sûr, on surveillait ce qui arrivait, mais ça leur donnait de développer leur confiance, d'être capable de régler des problèmes eux-mêmes et de développer un caractère, une solidité, une confiance en eux-mêmes puis une capacité d'accepter les choses de la vie et de régler les choses qu'il y a à régler. Alors, il dit au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance que vous avez et que j'ai, qui est biblique, qui n'est pas une invention humaine, elle ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On va voir ce que c'est la persévérance. On va voir pourquoi aussi c'est tellement important et comment renforcer ou développer davantage cette qualité-là, ce trait de caractère que Dieu veut que nous ayons et qui est absolument nécessaire pour que nous atteignions le but de naître un jour dans la famille de Dieu. Allez dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et la persévérance, nous en avons beaucoup besoin maintenant, mais laissez-moi vous dire que nous en aurons de plus en plus besoin dans les temps qui sont juste devant nous. Parce que vous voyez changer les choses sur la scène mondiale à une vitesse incroyable qu'on n'avait jamais vécue auparavant. Et il faudra être solide dans la foi Et il faudra vraiment être capable de persévérer dans ces circonstances-là plus difficiles qui approchent, parce que nous sommes au temps de la fin. Matthieu 24 et le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le Christ décrit ici le temps de la fin. Et il y a de plus en plus toutes sortes d'églises qui apparaissent avec toutes sortes d'enseignements qui parfois semblent bibliques ou parfois même ont des fondements bibliques, certains fondements bibliques, mais n'ont pas l'ensemble de l'enseignement du Christ. La personne qui cherche l'Église de Dieu doit trouver une Église qui enseigne l'ensemble de ce que la Bible enseigne et non pas une partie. Alors, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Nous sommes à cette époque-là. Et ils séduiront beaucoup de gens. Des milliers et des millions de personnes les suivent. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera dans ces circonstances-là, avec toute cette fausseté autour et la pression des faux prophètes et ainsi de suite, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ et à l'établissement de son royaume, celui-là sera sauvé. Alors, voyez-vous l'importance de ce que je vous parle aujourd'hui, de la persévérance? On a connu une époque de grand traumatisme dans l'Église de Dieu il y a quelques années, au milieu des années 80-90, quand M. Armstrong est décédé et qu'une autre direction est arrivée dans l'Église et que lentement, ces gens-là ont ramené l'Église vers le protestantisme, alors que nous avons fui, que plusieurs ont fui, plusieurs ne savaient pas où aller, et finalement, ça s'est regroupé sous M. Meredith il y a plusieurs années, et les vrais serviteurs de Dieu se sont regroupés, les évangélistes qui avaient été ordonnés par M. Armstrong se sont regroupés, M. Ames, M. Appartient, M. Meredith et tout ça, pour continuer justement la mission pour laquelle ils avaient été ordonnés évangélistes, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile jusqu'à la fin. Et c'est ce qui doit être fait. Alors, on a continué depuis ce temps-là, mais ça a été un choc terrible. Certains ont tenu le coup plus que d'autres, mais dans la plupart des cas, c'est parce que nous n'étions pas assez proches de Dieu quand nous avons été ébranlés ou, pour un temps, ne sachant où aller. Ces choses-là vont revenir. Il y aura des choses semblables à ça qui vont revenir. Pas dans le moment. M. Weston a pris maintenant la direction de l'Église et c'est un homme qui a été préparé de longue date. En plus, c'est un homme qui a été désigné après mûre réflexion, jeûne, consultation de la part de M. Meredith. Il a été désigné depuis plus d'une année. Et on voit que c'est une transition qui se fait en douceur et par la puissance de Dieu. Et on voit par les messages de M. Weston à quel point cet homme-là est inspiré par Dieu de parler comme il parle au temps où nous sommes rendus par rapport à la prophétie. Je fais cette petite aparté pour que vous sachiez qu'il y aura d'autres attaques à venir contre la vérité. Et contre la vérité, il y en a beaucoup, il y en a toujours eu, même du temps des apôtres originaux, il y en avait. Même Paul dit à un moment donné, il y en a qui étaient parmi nous qui se sont élevés contre la vérité. Il y aura des attaques contre l'Église, il y aura des attaques contre les gens individuellement. Et ça encore, ça ne doit pas nous surprendre. Dieu nous a avertis il y a longtemps, vous irez voir dans 1 Pierre 5, verset 8, c'est bien marqué que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, il cible chacun de ceux de l'Église de Dieu, pas ceux du monde. Ils sont déjà sous son influence dans toutes sortes d'autres religions ou pas de religions. Mais il cible ceux qui appartiennent à Dieu parce qu'il veut contrecarrer le plan de Dieu, bien sûr. Il n'y arrivera pas. Mais le risque, il est là, réel, pour chacun des êtres humains qui font partie de l'Église de Dieu, si nous ne mettons pas de l'avant les choses qu'on doit mettre de l'avant pour se protéger, puis être solide dans l'épreuve. Il y en a qui passent à travers l'épreuve. Et il y en a plusieurs qui pourront passer à travers les épreuves qui viennent. Il faut tenir solidement. Et ça, c'est vrai pour les nouvelles personnes. Parce que quand on vient à l'Église, je me rappelle, on n'est pas absolument convaincu. Et il faut prendre le temps de prouver les choses. Et moi, j'ai dit à des personnes qui sont venues dernièrement, même pour les premières fois à l'Église, prenez le temps de prouver dans la Bible où se trouve la véritable Église. Où est l'Église qui prêche le plus exactement la Bible, qui enseigne le sabbat qui n'a jamais changé, qui enseigne les fêtes de Dieu, qui enseigne que quand on meurt, on ne va pas au ciel ou en enfer, mais que Dieu ramène à lui notre esprit et qu'il redonne la vie ensuite, plus tard, au moment venu, selon son plan. Alors, c'est vrai pour les nouvelles personnes qu'il faut tenir le coup, être persévérant au moment de notre appel pour vérifier les choses, puis solidifier notre approche. Quand on fait ça, nous, on l'a fait quand on est venu à l'Église, il y a plusieurs années, mon épouse et moi, plusieurs dizaines d'années, on a vraiment vérifié les choses pour être certain que c'était ça. On ne voulait pas aller dans le vague puis se tromper. Et c'est vrai aussi le fait qu'on doit tenir bon et tenir contre les attaques, c'est vrai tout au long de notre vie spirituelle. Ceux qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans dans l'Église, on a vécu différentes choses. Il a fallu tenir le coup. Et je dirais que c'est surtout vrai à l'approche des derniers jours. Et nous sommes entrés dans les derniers jours. Parce qu'il y aura davantage de turbulences. Alors comprenez-vous qu'il devrait y avoir davantage de persévérance s'il y a plus de turbulences. Ça va ensemble parce que c'est ça qui va nous permettre de passer. Alors aujourd'hui, dans le message, je veux vous donner quatre composantes de la persévérance pour vous aider à comprendre ce que c'est puis à pouvoir l'utiliser au maximum pour être prêt. Un synonyme de la persévérance, on peut dire, c'est la patience aussi. La patience, c'est la persévérance dans l'exécution d'un projet. Quelqu'un qui est patient, il persévère pour atteindre son but. Hein? Il y a un projet, il y a un but, puis il persévère là-dedans. Comme quand on est aux études, puis qu'on veut aller vers une telle profession, ben c'est pas toujours facile. Il y a des années de travail, puis d'études, puis pendant que les autres font du sport, ou bien non, je me rappelle, quand les autres avaient déjà une voiture, nous autres, on faisait nos traductions de latin, puis de grec, puis de tout ce que vous voulez, et on faisait plein de choses comme ça. Les autres s'amusaient, les autres sortaient avec les filles, nous, on sortait avec nos livres. Puis on allait... on était des bébites de bibliothèque. Mais par contre, on avait un but. Et ceux qui ont tenu, ben ont pu accomplir des choses. Bien sûr, d'autres avaient d'autres choix, je respecte ça, mais je veux dire, quand on veut atteindre un but, il y a des sacrifices à faire, puis il y a des choses à faire pour y arriver. Puis c'est la même chose en ce qui concerne la vie spirituelle. La patience, c'est la persévérance dans l'exécution d'un projet jusqu'à temps que ce projet-là ne soit pas accompli. C'est ça. Première composante de la persévérance, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, très clair, c'est la foi. Romains chapitre 10, et on va voir plus en détail pour nous aider à comprendre. Romains chapitre 10, et regardez le verset 17. Ainsi, la foi, on parle de la foi véritable, là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Elle vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est la Bible. C'est sa parole d'un couvert à l'autre, la parole de Christ. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où le fait qu'on doit chaque jour se nourrir de cette parole-là, pour s'alimenter, pour alimenter notre foi, pour que ça devienne encore plus solide. Parce que plus on étudie les textes, plus Dieu nous les donne de comprendre. Et plus ça nous solidifie dans le fait qu'on croit à quelque chose de réel et en un Dieu réel et puissant. L'Église a toujours dû persévérer à travers les siècles, d'ailleurs. Il y a eu des obstacles, il y a eu des persécutions de toutes sortes. Et ceux qui ont persévéré, c'est individuel, cette persévérance-là, ceux qui ont persévéré ont fait preuve d'une conviction absolue qu'on appelle la foi. La foi de Dieu, pas la mienne. La foi de Dieu, on verra tantôt. C'est la foi de Dieu, c'est la foi du Christ qui compte, qui peut m'aider à avoir le courage nécessaire, comme on va voir tantôt. Rien ni personne ne doit nous détourner de Dieu et nous empêcher de le servir, de lui obéir et d'atteindre le but que lui a en tête pour nous, de nous donner de devenir des êtres immortels dans sa famille et ensuite de pouvoir aider les êtres humains qui sont encore vivants sur la terre. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Regardez le verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous. Alors, Paul, ici, était content des membres de l'Église à Thessalonique. Il dit, on est content de vous autres. C'est beau de vous voir aller. Il dit, aussi, nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu. À cause de quoi? À cause de votre persévérance. Et de votre foi. Voyez-vous, ça va ensemble. Une des composantes de la vraie persévérance, c'est la foi. À cause de votre persévérance et de votre foi. Au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Parce que comme je vous ai dit tantôt, Dieu est un bon père. Et il permet qu'on rencontre ces difficultés-là pour qu'on développe son caractère, qu'on soit solide dans les choix qu'on fait envers lui. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. On a des choses à faire pour ça. On a une façon de vivre. qu'on doit démontrer à Dieu pour être jugé digne du royaume de Dieu et pour échapper aux choses qui viennent, comme le Christ en a fait la promesse, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés, pour le moment, j'ajoute, un repos, du repos avec nous, lorsque le Seigneur paraîtra du ciel. Ça, ce serait le repos définitif lorsqu'on sera complètement transformé en être spirituel. Il n'y aura plus de douleur physique, il n'y aura plus d'inquiétude non plus, il n'y aura plus de faiblesse. Il y aura simplement une perfection qu'on pourra mettre au service des êtres humains, comme le Christ a fait lorsqu'il est venu aussi, et comme le Père fait envers nous. Proverbe chapitre 3. Ça se passe de nos jours aussi, ce même phénomène-là. Proverbe chapitre 3. L'encouragement que Dieu nous donne. Proverbe 3, et regardez le verset 5 et 6. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'action de Dieu dans ses fidèles serviteurs d'ici au retour de Christ, dans cette époque de turbulence que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus? Il dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » C'est notre seule source d'espoir. C'est notre seule source de puissance. C'est notre aide, notre haute retraite, notre refuge, notre soutien, notre Père. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Autrement dit, n'essaie pas de faire les choses à ta façon ou de trouver une façon de t'en sortir sans obéir à l'ensemble des lois de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur Dieu. Et regardez après. Reconnais-le dans toutes tes voies. Autrement dit, associe ton Dieu à tout ce que tu fais. Demande-lui de bénir ce que tu fais, de te guider, de t'aider à changer pour lui plaire. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Je n'ai pas seulement souligné en vert, je l'ai coloré en vert. Parce qu'à ce moment-là, il y a des sentiers qui sont non praticables pour nous. Parfois, il n'y a même pas de voie carrossable, on ne peut pas passer. Mais Dieu trouve un chemin pour nous quand c'est le temps, de la bonne façon, au bon moment. Il y a un point commun qu'on peut trouver dans l'histoire, dans tous les serviteurs de Dieu. Allez à Hébreux chapitre 11. C'est ce chapitre qu'on décrit comme étant celui des héros de la foi. Hébreux chapitre 11. On ne prendra pas le temps de tout lire le chapitre, vous pourrez le faire vous-même. C'est toujours inspirant de le faire, parce que ça décrit ceux qui nous ont précédés à une autre époque, mais qui ont tenu bon, qui ont été persévérants, eux, et qui ont atteint le but, qui attendent la récompense, qui attendent la résurrection. Et on voit que le point commun de tous les serviteurs de Dieu, ça a été cette foi-là, la foi de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas vu encore le retour de Christ. Pourtant, on en est convaincu. Pourquoi? Parce que c'est la foi du Christ en nous qui nous le dit. C'est ce que Dieu nous révèle, ce qu'il ne révèle pas à mon voisin ou à mon cousin ou à mes parents ou à mes amis, qui sont, dans certains cas, beaucoup plus intelligents que je peux l'être ou beaucoup meilleurs que je peux l'être. Ça m'est donné à moi ou ça vous est donné à vous. On dit merci, puis on l'apprécie. Mais il dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas, on en est convaincu. Pour l'avoir possédé, cette sorte de foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et après, ces anciens-là, comme Noé, Abraham, Jacob et tout ça, le roi David, sont mentionnés comme étant des héros de la foi, qui ont tenu bon et qui sont en attente de recevoir leur couronne. À cette liste-là, on peut ajouter l'apôtre Paul, on peut ajouter M. Armstrong, qui a consacré sa vie. On peut ajouter M. Appartien, qu'on a aimé, qu'on a chéri, qui nous a aidé tellement. On peut ajouter M. Meredith, qui vient de s'endormir et qui attend la résurrection aussi. Ce sont des exemples d'hommes de foi qui ont maintenu le cap. Allez dans Psaume 57, s'il vous plaît. Psaume chapitre 57. Ce sont des exemples qui nous encouragent beaucoup. Psaume chapitre 57. Et là, je vais vous donner le deuxième élément, la deuxième composante de la persévérance. Deuxième composante de la persévérance, ténacité. C'est la ténacité. C'est un geste volontaire encore de notre part. Parce que c'est la détermination. C'est la solidité dans une résolution qu'on a prise. C'est la persistance. Et ici, vous avez l'exemple de David qui dit à Dieu, « J'ai décidé d'être ferme. » J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Regardez le verset 8, 57, psaume, verset 8. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Autrement dit, Dieu, je suis ferme dans ce que mon cœur désire. Et je veux y arriver avec ton aide. Regardez le verset 1 à 4. Ça va nous situer. C'est lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül, c'est le roi David qui écrit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. » Il était mal pris. On ne parle pas de petits problèmes ici. Le roi de la nation le poursuivait pour le tuer. Rien de moins là. C'était pas pour l'encourager ou lui y annoncer qu'il y avait une semaine de vacances de plus. Absolument pas, c'était pour le tuer. Alors vous voyez un homme de Dieu ici qui rencontre une épreuve, pas une petite, énorme. Il se tourne vers qui? Il se tourne vers Dieu. Il dit, « Je comprends pas ce qui m'arrive. » Écoutez, puis en plus, David avait été oint roi sur Israël, mais il n'était pas encore en fonction. Il aurait pu dire, c'est moi qui suis le roi, puis c'est l'autre qui court après moi. Il aurait pu accuser Dieu, dire, t'es pas juste, là. C'est pas ça qu'il a fait du tout. Il dit, Dieu, aide-moi. Je comprends pas, mais aide-moi. Et souvent, on doit faire ça. On vit des situations où on ne comprend pas telle chose qui nous arrive. Mais ce qu'on a à faire, c'est de faire confiance à Dieu, puis dire, aide-moi à comprendre ce que j'ai à comprendre et à faire ce que j'ai à faire. Je me confie à toi entièrement. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers au bon moment, selon sa sagesse. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Voyez-vous, il se tournait vers Dieu encore, malgré que la situation était critique, au plus haut point que sa vie était en jeu. Humainement, dans nos difficultés, dans nos épreuves, et ainsi de suite, ça arrive qu'on a le cœur troublé, qu'on est abattu humainement. Et c'est une réaction normale. Il ne faut pas penser que ce n'est pas normal si on ressent des choses semblables à ça. David, dans la caverne, était sûrement apeuré par les risques qu'il courait, mais il disait à Dieu, je te fais confiance. Mais le sentiment de crainte était là quand même, voyez-vous, parce qu'on reste des êtres humains. Parfois, des gens disent, je ne dois pas être converti parce que j'ai telle réaction émotive comme ça. Non, ça ne va pas un contre l'autre. Ça ne va pas un contre l'autre. On est des enfants de Dieu. Dieu sait qui on est. Il sait comment on réagit. Mais nous, c'est à nous de nous habituer à s'en remettre à Dieu malgré nos réactions et ne pas laisser, j'en parlerai plus tard dans un autre sermon, ne pas laisser à ce moment-là nos émotions du moment prendre le dessus et nous guider, nous aider à prendre des décisions erronées trop rapides. Première décision à prendre, c'est d'aller se mettre à genoux. Ça presse toujours pour aller parler à Dieu. Quand il arrive une catastrophe ou qu'il y a une situation qu'on ne comprend pas, première chose, urgence, parler à Dieu. Comme David a fait. David a parlé à Dieu à ce moment-là. Et ne pas rester dans cet état de peur, si vous voulez, ou de réaction humaine intense. Comment on peut y arriver? En gardant les yeux sur le chef, sur le Christ. Et ça nous aide à prendre courage et ça nous aide à ce moment-là à relativiser les choses, à mettre les choses dans leur contexte. L'épreuve que j'ai actuellement, ou la colline que j'ai à traverser, ou ce qui m'est fait, qui est désagréable et qui me dérange, ce n'est pas la fin du monde. C'est que j'ai un but plus grand que ça et que j'ai un Dieu qui est plus grand que l'épreuve que j'ai à traverser et qui va m'aider à traverser. Soit qu'il enlève l'épreuve, ou soit qu'il me donne la force de passer à travers. Si lui juge que je dois encore vivre l'épreuve, pour les raisons que lui connaît. C'est ça. C'est toujours la même chose. Mais en faisant ça, c'est qu'on laisse quand même dans ses mains le choix, la décision de ce qui est le mieux pour nous. Et Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Alors, on relativise les choses et on se concentre sur ce qui est beau, sur ce qui est vrai, sur ce qui s'en vient, sur l'aide de Dieu. David s'est concentré sur quoi? Sur l'aide de Dieu. Et sur ce qui s'en venait, parce qu'il savait très bien, je pense qu'on le voit par tout le contexte de sa vie, rendu à ce moment-là, il savait très bien qu'il allait être roi sur Israël, parce qu'il avait été oint comme roi sur Israël. Donc, il attendait, il ne savait pas comment ça allait se passer, mais il savait que ça allait se passer, parce qu'il avait une confiance absolue en Dieu. Comme Abraham. Quand Abraham a eu son fils à offrir, on voit plus tard que Abraham s'est dit, si j'ai à l'offrir, je vais le faire. Puis il était prêt à le faire. Mais il dit, Dieu m'a dit que j'aurai une postérité par ce garçon-là. Donc, il va se passer quelque chose. Il va probablement le ramener à la vie si je dois aller jusqu'au bout de ce qu'il m'a demandé. Ça, c'est un homme de foi. et de courage et de persévérance dans ce qui est demandé, voyez-vous, et en remettant dans les mains de Dieu ce qui est le mieux, Dieu sachant ce qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on voit, vous pouvez aller voir dans Ésaïe 35, verset 4, il dit, « Prenez courage, ne craignez point. Prenez courage, ne craignez point. » Et dans toutes les circonstances de notre vie et dans celles qui viennent, il faudra prendre courage et ne pas craindre. Winston Churchill, Deuxième Guerre mondiale, une déclaration célèbre, je l'ai noté ici. Vous l'avez sans doute entendu, et ça va directement avec le sermon sur la persévérance. Il dit, « N'abandonnez jamais, 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 dans quoi que ce soit quelque chose de petit ou de grand. Gardez vos convictions. N'abandonnez jamais sous la pression. Ne vous soumettez jamais à la force en apparence insurmontable de l'ennemi. » C'est le cri du cœur que Winston Churchill a lancé à quelques reprises au cours de la Deuxième Guerre mondiale pour donner courage aux gens qui combattaient le nazisme. Et ça l'a aidé beaucoup. Et c'est un principe qu'on doit appliquer. Troisième maintenant, troisième composante de la persévérance. Endurance. L'endurance, c'est quoi? L'endurance, c'est la vigueur là, qu'on met dans ce qu'on fait. Vous savez, on peut faire quelque chose à moitié. Où on peut faire quelque chose avec notre cœur, avec zèle. C'est la vigueur, c'est les efforts, c'est en même temps la décision de tenir le coup, parce que tout commence ici. Comme mon beau-père, qui était un électricien, disait, tout commence ici, dans la boîte de contrôle. Et c'est vrai. Si on prend la décision de faire telle chose et qu'on y tient, ça a commencé là, mais ensuite on maintient la direction. Ça, c'est l'endurance. On peut la définir autrement. Moi, je l'ai noté ici parce que je trouve que ça décrit bien. L'endurance, c'est de résister aux obstacles, à la fatigue, à la souffrance. L'endurance, c'est ça. Et regardez les expériences que vous avez sûrement vécues dans votre vie où vous avez eu à être endurant. Vous avez à ce moment-là résisté à la fatigue, à la souffrance, au découragement. Vous avez tenu bon quand même en ayant les yeux sur le but. Vous avez, sans vous en rendre compte peut-être, relativisé la chose que vous aviez à vivre pour voir plus loin, parce que vous vouliez en sortir. C'est ça. Et ceux qui sont sortis de situations graves dans le monde, dans un vécu extrêmement difficile, c'est parce qu'ils ont été endurants, qu'ils ont eu cette détermination-là de dire, moi, je veux aller plus loin, je ne veux pas me laisser abattre et je ne veux pas mourir dans cette situation-là ou dans cette condition-là. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Ici, on a un enseignement pour nous en ce qui concerne l'endurance. Verset 1. C'est tout de suite après Hébreux 11 où il y a la longue description de plusieurs des serviteurs de Dieu au cours de l'histoire qui ont été les héros de la foi dont je vous parlais, là. Abraham, Noé, David, Enoch, et ainsi de suite. Après, en commençant le chapitre 12, il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de tous ceux dont on vient de parler, ces grands hommes-là et ces femmes-là qui étaient des hommes et des femmes de Dieu, qui ont tenu le coup, qui ont été courageux, qui ont été persévérants. » Il dit, nous aussi, là, aujourd'hui, qu'on a été appelés, on est entourés de cette nuée-là de témoins. « Rejetons tout fardeau. » Là, j'arrête. Il dit, nous qui sommes appelés aujourd'hui, on a tous ces témoins-là qui ont vécu, qui ont eu le courage de tenir bon pour arriver au but, et ils sont arrivés au but. Ils attendent leur couronne maintenant. Ils attendent la résurrection. Mais il dit, nous, on a tous ces témoignages-là pour nous aider. Mais il dit, rejetons tout fardeau. Et vous savez, je fais une petite précision ici. J'ai été victime de ça. Il faut que je fasse attention encore. Parce qu'on prend parfois sur nos épaules des fardeaux et des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres. Et parfois, on prend le voyage de d'autres ou de d'autres situations. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça atrophie notre vie à nous. Ça nous limite dans notre progression. Et souvent, on n'aide même pas les autres qu'on voulait aider, qu'on pensait aider en prenant tout leur fardeau sur nos épaules. Il faut faire preuve de sagesse là-dedans. Parce que parfois, on prend des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Et on se crée des obligations dont on est victime après. Je vous donne un exemple très, très simple, qui n'est pas sur le plan spirituel, malgré qu'il y a une dimension spirituelle. Si je m'achète, supposons que je peux m'acheter une maison, mais que je m'achète une maison bien au-delà de ce que je peux payer, je viens de me créer une obligation et je suis attaché à cette obligation-là et ça vient d'hypothéquer non seulement la maison, mais ma vie, Parce que là, il faut que je cours en arrière pour faire les paiements. Puis si je manque un coup de patin, là, je vais être stressé et je n'aurai pas le même genre de relation avec mon épouse ou avec les voisins ou tout ça parce que je suis pris. J'ai été trop loin. Je me suis créé des obligations au lieu de simplifier ma vie. Nous, là, on est à une époque où il faut simplifier notre vie. Ne pas charger notre vie de choses inutiles qui peuvent nous gruger de l'énergie, des émotions et nous empêcher d'avancer spirituellement, d'étudier chaque jour, de prier chaque jour, de se confier à Dieu, de regarder sur la scène mondiale et de nous préparer aux choses qui viennent. Ça, c'est important, c'est capital, c'est nos priorités. C'est nos priorités. Parce que si on n'est pas prêt, le train va passer, mais on ne pourra pas embarquer. Veillez et priez en tout temps pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent. Se concentrer sur l'essentiel, simplifier notre vie. Et après ça, il va plus loin. Je reviens. Il dit, on est environné d'une belle nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Je vous ai donné un exemple, il y en a d'autres. Et le péché. Alors là, il faut rejeter le péché aussi. Parce que je ne peux pas penser avoir la paix d'esprit si je ne rejette pas totalement le péché. Ça ne veut pas dire de réussir tout de suite à tout le rejeter. Ça, c'est une autre chose. Mais il faut que je sois en train de rejeter tout péché de ma vie. Tout ce que Dieu me montre à être contraire à sa loi, il faut que je prenne la décision de travailler à tout éliminer ça. Parce que si je garde des péchés dans ma vie dont je ne veux pas me débarrasser, je garde sur moi un fardeau qui hypothèque ma capacité d'avancer spirituellement. Je suis atrophié dans mes actions, absolument. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue ma foi. Oui, parce que ça va à l'encontre de la foi. J'obéis pas à Dieu. Je veux garder dans ma vie des choses que je ne change pas. Des petites choses qui me plaisent à moi, puis qui disent, bon, je me dis, c'est pas si pire. Dieu va comprendre. D'autres, il y a d'autres dans l'Église qui font des choses pires que ça. Donc, moi, je peux me permettre ce petit à côté, Dieu va me pardonner. Non. Si je fais ça, j'atrophie ma foi et la culpabilité, elle reste là et je me sens pas en règle avec Dieu. Je n'ai pas la paix d'esprit, je ne suis pas en train de lui appartenir. Tout simplement. Tout simplement. Ça diminue ma foi, ça diminue ma joie et ça diminue mon assurance devant Dieu. Parce que si je vais devant le trône de miséricorde, comme c'est marqué dans Hébreux, pour demander pardon de mes fautes, mais avec un cœur ouvert en voulant me débarrasser de toutes ces fautes-là, il dit, vous allez avoir de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, Dieu va nous pardonner. Je ne repartirai pas avec quelque chose de caché qui est pas propre, voyez-vous, et qui me fait être hypocrite par rapport à Dieu. Dieu sait, moi aussi, même si je ne veux pas l'avouer dans ces cas-là. Alors, il faut garder les choses que Dieu veut qu'on garde. Ne pas garder de choses contraires aux lois de Dieu. Parce que si je fais ça, je continue de marcher dans ma faiblesse. Je continue de marcher dans ma faiblesse. Je continue de rester ralenti dans mon développement spirituel. Et quand les grands événements vont arriver, je n'aurai pas la force nécessaire pour être capable d'affronter adéquatement et être capable de passer à travers. Vous irez voir dans Galates 2 et le verset 20. Galates 2 et le verset 20. On est tout proche, je vais vous le lire. Verset préféré de M. Meredith. Je pense que je ne vous apprends rien pour les plus vieux qui sont ici. Mais ça donne un point important. Moi, je me rappelle, quand nous sommes revenus à l'Église, mon épouse et moi, j'entendais M. Meredith des premières fois parler de ça, Galates 2, 20. Puis je ne comprenais pas exactement la profondeur de ça. Mais maintenant, j'en vois davantage toute l'ampleur. Regardez, Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec le Christ. » C'est Paul qui parle. « Et chacun de ceux d'entre nous qui ont été baptisés, nous avons été crucifiés avec Christ. » Pourquoi? Parce que nous avons utilisé son sacrifice pour être pardonnés. Nous avons passé par les eaux du baptême et nous avons été lavés par son sang. C'est comme si nous avions été présents lors de la crucifixion. « J'ai été crucifié avec le Christ pour que mes fautes soient pardonnées. » »« Et si je vis maintenant, » ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Lui qui a payé l'amende de mes péchés, qui a donné sa vie pour que moi j'aie la vie, il vit en moi maintenant. Si je vis maintenant dans la chair, parce que je suis encore un être humain pour l'instant, je vis par la foi du Fils de Dieu. Dans la vraie version originale, c'est pas « je vis dans la foi au Fils de Dieu », c'est « je vis par la foi du Fils de Dieu. » C'est le Christ qui met sa foi en nous. C'est pour ça que je vous disais tantôt que ma foi humaine ne sert de rien. C'est la foi de Christ que j'ai besoin. Et pour ça, j'ai besoin d'être en train de lui obéir pour qu'il me donne davantage de sa foi, que je vois les choses comme lui voit, et qu'il me donne sa force pour être capable d'y arriver. C'est pour ça que Paul disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et moi, je peux dire la même chose, et vous aussi. Si vous demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit, si vous demandez à Dieu que le Christ vive sa vie en vous, il va le faire, parce que c'est son désir. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, « Je peux tout réussir par le Christ qui vient en moi, parce que lui, c'est le Tout-Puissant. » C'est le Tout-Puissant. Moi, je suis le Tout-Impuissant. je n'ai aucune force par moi-même. Je suis comme l'herbe des champs. Un vent chaud vient, il l'assèche. Demain, l'herbe n'est plus là. C'est la condition humaine. Mais par la puissance de Dieu, je peux avoir un dépôt de la vie éternelle vers quoi Dieu veut m'amener. Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et même le Christ, quand il était sur la terre, il disait, « Je ne fais rien de moi-même, c'est le Père qui fait. » Alors le Christ comptait sur son Père à ce moment-là parce qu'il était entièrement humain, contrairement à ce que certaines religions annoncent faussement. Le Christ était entièrement humain sur la terre. Et c'est pour ça que je reviens à ça. On doit avoir de l'endurance parce que dans Matthieu 24, verset 13, il est dit, « Celui qui persévérera, on l'a vu, celui qui persévérera jusqu'à la fin, et nous sommes proches de la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Tout ça, ça se tient, et à travers ça, là, j'espère que vous voyez davantage le beau plan de Dieu. Comment c'est encourageant. Comment Dieu nous donne de comprendre ce qu'il a établi comme plan pour l'ensemble de l'humanité, mais pour son petit troupeau maintenant, parce qu'on est les prémices, les premiers appelés, le tout petit troupeau qui va former la garde rapprochée du Christ lorsqu'il va revenir pour administrer les nations et enseigner les voies de Dieu, guérir les nations, les encourager, les consoler, rebâtir. Certains d'entre nous vont avoir la responsabilité de 2 villes ou de 5 villes, comme le Christ mentionne. Et c'est une des récompenses qu'il promet à ceux qui sont fidèles. Il ne promet pas de 2 nuages ou 3 nuages quand on ira au ciel. Il dit à ceux qui sont fidèles, je vais vous donner 5 villes ou 10 villes selon ce que vous allez avoir développé de talent. Alors, il faut persévérer et surtout dans les temps où nous sommes. Je vous donne une petite citation. J'ai bien aimé ici. C'est un écrivain américain, Albert Hubbard, qui a écrit concernant l'endurance dont je vous parle. L'endurance, c'est une décision soutenue, là. Une décision soutenue de tenir le coup pour arriver au but qu'on s'est fixé ou qui nous a été montré par Dieu qui nous appelle. Je vous cite ce qu'il a dit. Ce qu'on appelle le génie, et souvent vous entendez parler de ça, quelqu'un a eu du génie, a inventé quelque chose d'extraordinaire. Souvent, on n'a pas vu ce qui s'était passé en arrière, là. C'est pas arrivé le premier matin qu'il s'est levé puis a inventé quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les grands inventeurs, ça a pris des fois des années et des séries d'échecs à pu finir. Quand vous regardez Edison, quand vous regardez d'autres grands inventeurs, Einstein et tout ça, ça n'a pas venu tout de suite. Mais ils ont eu de l'endurance, ils ont persévéré. Et là, ça a réussi. Ça s'applique à nous, spirituellement. Alors, je reviens à la situation de M. Hubbard. Il dit, ce qu'on appelle le génie, c'est simplement la capacité de faire des efforts continus. Capacité de faire des efforts continus. Il dit, la ligne qui sépare le succès de l'échec est tellement mince qu'il est difficile de savoir quand nous la traversons. Intéressant. Il dit, elle est tellement mince, la ligne entre le succès et l'échec, là, que quand on travaille fort pour arriver à quelque chose, on ne sait pas exactement. Tellement mince qu'il est difficile de savoir quand nous la traversons. Elle est tellement mince qu'il nous arrive souvent d'être sur cette ligne sans le réaliser. On est juste sur la ligne. Combien de personnes ont baissé les bras à un moment où un petit effort de plus ou un peu plus de patience les aurait amenés au succès? C'est fort comme déclaration et c'est très descriptif. Un peu plus d'effort, un peu plus d'endurance et ce qui semblait voué à l'échec devient une réussite. Et ça a été l'histoire de plusieurs réussites, ça. Je continue la citation. « Il n'y a pas d'échec, sinon celui de ne pas avoir essayé encore, encore et d'avoir tenu. » Formidable. Fin de la citation. Vous savez, pour les serviteurs de Dieu, le petit troupeau dont je vous parlais tantôt, vous et moi, pour nous, c'est maintenant. C'est maintenant le temps de la persévérance. C'est maintenant le temps de l'endurance, de la ténacité. Se fortifier. Chercher Dieu de tout notre cœur, marcher avec lui. Regardez Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. C'est un verset qui donne à réfléchir. Et qui explique en même temps, vous allez voir, pourquoi Dieu nous permet d'avoir une série d'épreuves dans notre vie pour nous fortifier, pour qu'on soit capable de rencontrer des épreuves plus grandes, comme des athlètes qui s'entraînent en vue des Olympiques. Ils ne commencent pas par les Olympiques, ils commencent par des entraînements successifs qui sont de plus en plus exigeants, et là, ils se préparent justement pour la grande participation finale. Regardez Proverbe 24, verset 10. « Si tu faiblis au jour de la détresse, et cette détresse-là, elle approche, et dans le texte original, c'est au jour de l'adversité. Et on sait qu'il y a de l'adversité plus grande qui approche à cause des événements mondiaux. Il faudrait être convaincu, il faudrait avoir cette foi absolue. Et pour avoir cette foi absolue, il faut être proche de Dieu pour que Dieu nous la donne, la foi de Christ. Si tu faiblis au jour de l'adversité ou de la détresse, ta force n'est que détresse. » Il y a beaucoup là-dedans, là. Il dit, quand ça va être plus difficile, si tu faiblis, ce que tu pensais avoir comme force, là, c'est du papier, c'est du vent. Ça n'a aucune valeur. Alors que si on compte sur Dieu pour passer à travers les étapes qu'on a à passer maintenant, quand les étapes plus difficiles viendront, on aura la force de passer à travers. On sera proche de Dieu et il va nous aider à passer à travers. L'inverse est vrai, là. Parce qu'il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Mais si votre force et ma force actuellement n'est pas détresse, mais qu'elle est en train de s'améliorer parce qu'on persévère et qu'on développe d'être proche de Dieu et de faire sa volonté, quand l'adversité viendra, elle ne sera pas faiblesse, notre force. Elle sera la force du Christ, la force du Tout-Puissant en nous, qui se sera développée parce qu'on lui aura demandé et qu'on l'aura développée. Quand les temps durs vont venir, les temps plus durs, seuls les endurcis, je peux dire ça de même, spirituellement, vont continuer, vont pouvoir passer à travers. Ceux qui seront proches de Dieu, ou on peut dire les résistants, seuls les résistants vont être capables de passer à travers. Il y a des exemples d'endurance extraordinaire dans la Bible, on n'y ira pas, mais écoutez, lisez simplement l'histoire de Noé. Noé, il a bâti une arche sous la commande de Dieu. Vous savez comment ça a pris de temps à bâtir l'arche? Ça a pris 100 ans à bâtir l'arche. On parle d'endurance, là. Et on ne parle pas de gens autour qui l'applaudissaient, qui l'admiraient, parce qu'on faisait des chansons à boire sur Noé. Parce qu'on disait, ce monsieur-là bâtit un immense bateau alors qu'il n'y a pas d'eau, sur une terre entièrement sec. C'était complètement contraire à toute logique humaine. Vous imaginez les commentaires, puis les quolibets, puis les qualificatifs qui étaient donnés concernant ce vieillard-là avec ses garçons qui bâtissaient un bateau alors qu'il n'y avait pas d'eau. Et puis en plus, il disait des choses bizarres, parce qu'il annonçait qu'il allait avoir un déluge. « Mais oui, mais il ne mouille jamais ici. Il va avoir un déluge comme il n'y en a jamais eu. Mais oui, mais il ne mouille jamais ici. » Puis en plus, vous bâtissez un bateau, là, ça n'a pas de sens. Les gens ne savaient pas, les gens ne comprenaient pas. Mais la Bible dit très bien, le Christ dit, il en sera de même au jour de Christ, comme au jour de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, s'amusaient, faisaient des chansons, faisaient plein de spectacles, et a pu finir jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et à ce moment-là, fini. Fini la récréation. Et on est à cette époque-là, le Christ nous a avertis très, très, très clairement. Alors voyez-vous, seuls ceux qui seront proches de Dieu, qui comprennent les temps dans lesquels nous sommes et qui les comprennent suffisamment pour savoir qu'on doit être proche de Dieu et travailler au mieux à faire sa volonté, même si on n'est pas parfait. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait tout de suite, mais il veut qu'on marche dans la perfection avec son aide. Alors Noé a travaillé pendant 100 ans. Combien d'entre vous avaient 100 ans ici? Il n'y a pas aucune main qui se lève, je le savais. Absolument pas. Il n'y a pas personne qui a 100 ans. Et il y a encore moins de gens dans la salle qui sont dans l'Église depuis 100 ans, qui ont passé à travers toutes sortes de situations, qui ont été critiquées, qui ont été méprisées, rejetées même par des amis ou des gens de l'entourage parce qu'on ne faisait plus les choses qu'on faisait avant, tout simplement. C'est un peu le même phénomène. Mais l'épreuve est la même, sur moins long, heureusement. On n'en demande pas plus, là. Mais on a passé par là, et on passe encore par là. Il faudrait être disposé à aller jusqu'au bout dans cette façon de faire-là. Quatrième composante de la persévérance. Quatrième et dernière composante de la persévérance. Il y en aurait d'autres, mais je vous donne des principales. C'est le courage. Le courage. Et regardez, allez dans Josué, Là, vous avez l'histoire d'un homme courageux ici. Tout de suite après le livre de Deutéronome. Josué, chapitre 1. Ça, c'est un bel exemple de courage. Et Dieu lui a conseillé, justement, d'être courageux pour qu'il soit capable de persévérer. Parce que c'est un élément de la persévérance, d'avoir du courage, en plus des autres éléments que je vous ai donnés. Et regardez bien une chose, c'est que la même promesse que Dieu a faite à Josué à ce moment-là, elle vous est adressée à vous personnellement et à moi personnellement, qui sommes parvenus au temps de la fin. Josué 1, versets 1 et 2. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, c'était l'entrée en terre promise. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le temps était venu pour entrer en terre promise. » Et c'est intéressant, moi, en préparant le sermon, je voyais une similitude avec nous aujourd'hui. Parce que nous, on va entrer en terre promise spirituelle bientôt, lorsque le Christ va revenir. Et à ce moment-là, nous allons, si nous sommes fidèles jusque-là, si nous sommes là, nous allons être ceux qui allons aider les autres à entrer en terre promise, à faire partie de la famille divine. Même de nos parents qui seront peut-être survivants à ce moment-là, ou plus tard, de nos parents qui seront ressuscités. On a un peu comme le même mandat que Josué avait de faire entrer en terre promise ceux qui nous seront confiés et ceux de nos familles à ce moment-là. C'est intéressant de voir l'analogie parce que c'est encourageant. Verset 5, un peu plus loin. Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et si vous remarquez, c'est exactement les mêmes paroles que le Christ a répétées dans le Nouveau Testament en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ses petits frères et ses petites sœurs, ceux que Dieu appelle aujourd'hui. Et Dieu continue en disant à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. Prends courage, Josué. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Comment on fait pour avoir courage? Est-ce qu'on s'assoit sur la galerie, on se berce un peu et on dit « Ah, il faut que je sois courageux? » Il y a des moyens d'être courageux. Dieu a dit exactement à Josué comment être courageux. Regardez après. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Comment? « En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. » Comment vient le courage? Si je m'applique à mettre les lois de Dieu en pratique dans ma vie. Sinon, j'ai peur. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de tout. Je n'ai pas le courage dont j'ai besoin parce que je ne suis pas proche de Dieu, je ne comprends pas ses lois, je n'en vis pas. Regardez, ça c'est une clé importante que Dieu donne ici à Josué et qu'il nous donne à nous. Il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Comment? « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Le courage vient de l'obéissance. J'ai rajouté ça dans mes notes ce matin quand j'ai relu ça. J'ai dit, wow, le courage vient de l'obéissance. C'est une notion importante à réfléchir. Puis ça nous donne l'espoir encore plus parce qu'on voit que tout nous est donné. Mais il faut savoir comment ça marche. Il faut demander à Dieu et mettre en pratique. Et après ça, il dit comment? D'une autre façon. Verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour ça que M. Meredith insistait tellement pour nous dire chaque jour, ne passez pas une journée, un, sans prier Dieu, et deux, sans étudier la parole de Dieu. Parce qu'il dit, médite-le chaque jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est comme ça que tu auras du courage. Parce que, je reviens à ça, je vous l'ai montré tantôt dans Romains, la foi de Christ, vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Donc, ce qu'on entend vient du Christ, c'est sa foi qui vient du Christ, par sa parole. Si je m'en nourris chaque jour, si je l'approfondis, si je la mets en pratique, je suis renforcé et j'ai du courage. Et j'aurai du courage le jour où j'aurai besoin d'avoir davantage de courage, selon les événements. Formidable! C'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai pour tous et chacun ici, chacun des appelés. Il y a une citation que j'ai aimée, parce que j'ai aimé dans ma vie planter des chênes. Je me suis amusé à planter des chênes avec des glands. J'en ai aujourd'hui des chênes qui sont rendus à 10 mètres, 15 mètres de hauteur. J'en ai qui sont plus petits. Mais j'aimais ça. Puis j'aime avoir le fruit. Mais il y a une citation que j'ai gardée ici qui me plaît par rapport à ça, au courage qu'on doit avoir. Il dit « Les chênes majestueux que nous voyons aujourd'hui ne sont en fait que les tout petits glands d'hier qui ont tenu le coup. » Voyez-vous? Les majestueux chênes d'aujourd'hui, c'est seulement les petits glands d'hier qu'on a mis dans la terre, mais qui ont tenu le coup malgré le froid, les vents, les tempêtes, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ce sont de grands chênes solides. C'est le principe. Il faut persévérer jour après jour, quelles que soient les circonstances. Et si on se retrouve dans la caverne comme David, il y a une seule place à se tourner, c'est vers en haut. Dieu, aie pitié de moi. Donne-moi la force de passer à travers l'épreuve que tu permets que j'aie. Parce que si Dieu n'avait pas permis qu'il ait cette épreuve-là, il ne l'aurait pas eue. Parce que Dieu est suprême. Voyez-vous? Quand Dieu permet qu'une épreuve arrive, c'est qu'il veut nous montrer quelque chose à travers ces choses-là. Le contraire du courage, c'est la peur. Le contraire du courage, c'est la peur. 1 Jean 4. Ça vaut la peine qu'on regarde ce passage-là. C'est encore une compréhension plus profonde du plan de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous avez déjà lu ce passage-là. On se demandait ce que ça voulait dire. La crainte n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. Mais l'amour bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je reviens. Parce qu'ici, on parle de quel amour, là? On ne parle pas de l'amour d'une mère pour ses enfants, ni de l'amour d'une sœur pour sa sœur. On ne parle pas de cet amour-là, on parle de l'amour de Dieu ici. Si Dieu m'appelle, si je prétends être un enfant de Dieu, je dois vivre selon ses commandements. Je dois m'appliquer à vivre selon ses commandements. Et si je m'applique à vivre selon ses lois, je n'ai pas peur de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est quoi l'amour? Vous allez voir un peu plus tard, juste un peu plus loin. Chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah! Comprenez-vous que si j'ai l'amour de Dieu, que si je suis en train de m'appliquer à vivre selon ses commandements, je n'ai pas peur. Parce que Dieu me pardonne mes fautes. Dieu est prêt à me pardonner. J'ai raison d'avoir peur, par exemple, si je ne me repens pas et que Dieu m'appelle. Là, j'ai raison d'avoir peur, parce qu'il y aura des conséquences. Comprenez-vous? Sinon, il dit... C'est pour ça qu'il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand on aime Dieu, qu'on pratique ses lois, on n'a pas d'affaire à avoir peur de Dieu. Dieu est prêt à nous pardonner, même quand on trébuche occasionnellement par faiblesse ou par circonstances difficiles ou tout ça. Il sait qu'on est humain et il nous donne le temps. Dieu agit dans le temps. Il faut laisser au temps le temps d'agir. Il faut, à l'intérieur de ça, laisser à Dieu le temps d'agir dans le temps qui passe. Pour nous, heureusement qu'on a le temps. Parce que si on n'avait pas du temps pour changer, on n'aurait pas de chance. Mais Dieu nous donne d'avoir une certaine période pour être capable d'avancer. Mais voyez-vous, quand on s'applique à observer les lois de Dieu, il n'y a pas de peur de Dieu. Il y a une assurance même, au contraire, devant Dieu. Il y a même une assurance quand on va lui demander pardon, parce qu'on sait qu'il est prêt à nous pardonner si on a manqué notre coup, pas dans quelque chose qu'on ne voulait pas changer, mais dans une faiblesse qu'on a eue ou tout ça. C'est le fun de voir le plan de Dieu tel quel, s'appliquer à vivre selon les lois de Dieu. 1 Jean 4, verset 16 et 17, juste un peu avant. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. » C'est son caractère. C'est un donneur. « Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Pourquoi? Parce que plus on pratique les lois de Dieu, plus on lui ressemble. Plus on développe son caractère. Alors, plus on devient comme lui. Et ça me fait penser, je pense à des familles voisines de chez nous, là. Les enfants ressemblaient aux parents. Ils avaient la même façon de faire, des fois les mêmes gestes, ou les mêmes. C'est ça. On ressemble à nos parents. Alors, si Dieu est notre Père et qu'on pratique ses lois, on développe son caractère. Alors, c'est pour ça qu'on devient comme lui. C'est ça qu'il dit ici. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde, même si le monde ne nous connaît pas et nous trouve bizarre. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors comprenez-vous, quand les temps vont devenir plus difficiles et que le jour du jugement sera là comme tel, on aura de l'assurance, on sera capable d'aller plus loin. Je n'irai pas là-dedans. Vous avez connu ces exemples-là. Vous pourriez les lire vous-même. C'est inspirant. Vous avez le cas de Joseph qui a obéi dans des circonstances extraordinairement difficiles. Joseph avait pas... c'est sûr qu'au point de départ, il était un petit peu vantard et puis il s'est fait haïr par ses frères. Il s'est fait vendre aussi. Ils l'ont vendu à des gens, à des caravanes qui ont passé. Il a payé le prix pour ça. Mais il a appris. Mais après ça, à un moment donné, il a refusé de faire le mal. Il a refusé de transgresser une loi de Dieu, de coucher avec la femme de son patron. Et elle s'est retournée de bord pour l'accuser d'avoir voulu la violer. On voit ça dans les textes. Qu'est-ce qui est arrivé? Notre pauvre Joseph, il a eu pour une dizaine d'années en prison après ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste un serviteur de Dieu qui a refusé de transgresser une loi de Dieu qui se retrouve en prison, là? Selon la logique humaine, ça marche pas. Mais selon Dieu, ça marche, parce que Dieu voyait plus loin. Quand je vous ai parlé tantôt d'avoir une plus grande perspective que ce qu'on vit dans le moment, que Dieu sait ce qu'on a besoin et que lui a en tête là où il veut nous amener, quand nous sommes ses enfants, quand nous sommes en train de lui obéir, on sait ce qui est arrivé à Joseph après. Alors, l'histoire est fantastique parce qu'à un moment donné, il a été sorti de prison, il est devenu même le deuxième en Égypte. Et c'est par lui que sa famille qui l'avait vendu a été sauvée par la suite. Il a été envoyé devant ses frères. Toute une histoire. Mais ça démontre un peu ce que je vous dis. C'est des encouragements dans la persévérance. Ces 10 années-là ou plus qu'il a passé en prison, là, il a fallu que ça y persévérant. Puis il a fallu qu'il continue à croire en Dieu, comme le roi David dans la caverne qui était menacé d'être tué continuait de croire en Dieu alors que sa vie était presque anéantie. Formidable. Vous avez la même chose en ce qui concerne Job. Vous avez la même chose en ce qui concerne Job. Job n'était pas parfait, c'est sûr. Comme vous, comme moi, on n'est pas parfait. Mais Dieu a permis que, dans le cas de Job, heureusement, il ne permet pas la même chose à chacun de nous, mais il a permis que Job passe par des épreuves épouvantables à nos yeux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré, il a tenu bon, puis il a continué à croire en Dieu. Même si à un moment donné, la seule personne qui lui restait, parce que ses enfants étaient morts, ses biens avaient été enlevés, il était malade, il s'en allait vers la mort, la seule personne encourageante qui lui restait, c'était sa chère épouse. Et elle lui a donné l'encouragement extraordinaire en disant, écoute, maudis ton Dieu, puis meurs. Bel encouragement. Est-ce que Job a abandonné? Absolument pas. Job a tenu quand même. Et regardez, l'histoire ensuite s'est continuée, c'est formidable. Parce qu'on voit à la fin de l'histoire, il a été béni beaucoup plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il avait continué à persévérer dans l'obéissance à Dieu et dans la confiance au Dieu Tout-Puissant. Ça vient de Dieu, la persévérance, qu'on appelle aussi la patience. Vous pourrez aller voir dans Galates 5, verset 22, la patience ou la persévérance, c'est un fruit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, qui s'appliquent à lui obéir. Et pour renforcer, en terminant, notre persévérance, qu'est-ce qu'on doit faire, les moyens? Garder nos yeux sur le but. Ça, ça nous encourage. Regardez qu'est-ce qui s'en vient. Parce que là, le monde devient de plus en plus chaotique et ça va devenir comme décourageant si on voyait juste ça. Mais nous, on voit au-delà, qu'au-delà de ça, il y a un monde merveilleux qui s'en vient. Le monde de demain sous le Christ. Il faut garder les yeux aussi sur la mission de l'Église. Prier pour que ça réussisse. Encourager le ministère. Encourager nos dirigeants. Faire tout ce qu'on peut pour encourager nos frères et sœurs. Être une famille unie, comme on a vu tantôt dans la sermonnette aussi. Garder une attitude positive. C'est une autre façon de renforcer la persévérance. Vous pourrez aller voir Romains 8, verset 28. Un verset qui est très encourageant. Je pense que je vais vous le donner en passant, ça vaut vraiment la peine. Je l'aime ce verset-là aussi beaucoup, beaucoup. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste, et ça s'appliquait pour Job, ça s'appliquait pour Noé aussi, ça s'est appliqué pour les autres serviteurs de Dieu qui ont passé par de grandes épreuves, comme le roi David. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, on a vu tantôt, c'est vivre selon ses lois, s'appliquer à vivre selon ses lois. Il dit, toute chose qui arrive à ces gens-là concourt à leur bien, même si sur le coup, ils ne comprennent pas toujours pourquoi telle chose leur arrive. C'est le grand patron qui est en charge. Et ça, c'est une promesse. Ça aussi, ça, j'ai fait un cadre vert, parce que c'est une promesse extraordinaire de Dieu. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien. Dans la société, parfois, certains citent juste ce bout-là. Ils disent, faites-vous-en pas, parce que toute chose concourt au bien. Non, c'est pas le même. La vraie citation, c'est « Toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois. De ceux qui sont appelés selon son dessein. » Là, ça vient de réduire le nombre sur la planète Terre, hein? Il y a 7 milliards, quelques centaines de millions, mais dans l'Église de Dieu, il y a très peu de personnes dans le petit troupeau. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose sous la gouverne de Dieu concourt au bien de ces gens-là. Persistez à persister. Préparez-vous à ce qui s'en vient. Il y a des choses qui viennent qui sont toutes proches. Il faut être prêt à ça. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Luc 21, veillez et priez en tout temps pour avoir la force d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Christ. C'est-à-dire d'être encore vivant, debout sur vos deux pieds au moment où le Christ va revenir. C'est une promesse aussi qu'il fait. Mais il dit, veillez et priez, ça veut dire prenez au sérieux votre appel, faites les choses qu'il y a à faire et je vais vous donner le courage par mon Saint-Esprit. Mais demandez le Saint-Esprit et travaillez à vivre selon mes lois. On demande à Dieu son Saint-Esprit parce qu'un des fruits de l'Esprit, c'est justement la persévérance. On peut lui expliquer à Dieu quand on va en prière ces choses-là. Dire, Dieu, j'ai besoin d'être plus persévérant, je ne suis pas porté à ça. Aide-moi à le développer, ce trait de caractère-là, dans les circonstances que tu me donnes à vivre. Apocalypse 3, un dernier verset. Apocalypse, chapitre 3. Un verset que plusieurs connaissent très bien. Et ça, c'est ce qui attend, dans très peu d'années, ceux qui persévèrent en ce moment et qui vont continuer à persévérer, qui auront la force, parce que Dieu leur donnera, parce qu'ils seront proches de Dieu, qu'ils vont continuer d'être proches de Dieu et de faire sa volonté. Apocalypse 3, verset 10. Regardez ce que Dieu dit. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Ça dit encore tout ici, ça résume mon sermon. Il s'adresse aux gens vivant au temps de la fin, qui vont survivre à la grande détresse, comme on va voir. Et il dit, « Parce que vous avez gardé la parole. » Ça, c'est la parole de Dieu. Mais la parole qui nous invite à persévérer dans les voies de Dieu. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, de vivre selon mes voies. » Je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation ou de la grande détresse qui va venir sur le monde bientôt pour éprouver les habitants de la terre. Il dit à ce moment-là, quand les choses vont réellement se gâter au maximum à la fin, je vous protégerai parce que vous êtes les miens, parce que vous avez persévéré, vous avez tenu dans différentes circonstances difficiles, vous m'avez toujours demandé mon aide et je vous l'ai accordé. Parfois à ma façon, parfois non pas sur le champ comme vous vouliez l'avoir, mais à ma façon, de la bonne façon, pour que vous ayez ce qu'il faut pour vous rendre là où vous êtes rendu. Il dit, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et en terminant, je relis le verset 10, qui est tellement encourageant. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la grande détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La persévérance, c'est une clé majeure, sinon la clé de la réussite.